Milkshake.
En fait, je pense qu'il faut que ce soit sincère et que ça apporte quelque chose. Comme toutes les bonnes idées de boîte, de société, de création de société, je pense que si on se dit, tiens, j'ai pas vu de podcast parler de ce sujet, ce serait bien. Même s'il y a 100 personnes qui l'écoutent au final, c'est top. Moi, je dis toujours, quand on fait des reportages, un peu de prévention, même pour inciter au dépistage, des cancers ou autre, même s'il y a 5 personnes qui le font au final, c'est déjà ça de gagner.
Ah ouais.
C'est un peu la même chose pour les audiences de podcast, je pense. Et puis en plus, je pense que ça fait plaisir aussi à la personne qui le fait.
Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit « action de cheminer ». Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle du cheminement des sables, des électrons, on parle des cheminements de la Lune. Et dans ce podcast, on vous parle de cheminement de femmes, toutes différentes, toutes uniques. Je tends le micro à celles, et parfois, pour la première fois, à ceux qui font bouger les lignes de la santé des femmes, qui font avancer les choses. Car oui, on avance. Oui, on trouve des solutions, des façons d'aller mieux. Je vous le promets. Préparez-vous à être surprise. Je suis Marguerite de Rodleck. Bienvenue dans Cheminement. Margot de Frouville, tu es une journaliste qui s'est engagée à sensibiliser le public sur les questions de santé, à travers ton travail notamment sur BFM TV. Après un master en droit à Panthéon Assas, ton chemin t'a conduit vers le journalisme. Depuis 2010, tu travailles donc chez BFM, où tu t'es spécialisée dans ce beau domaine qu'est la santé. À la rentrée 2014, c'est là que tu as commencé. Aujourd'hui, tu travailles aussi avec le docteur Alain Ducardonnet, médecin cardiologue, et ensemble vous présenter une chronique intitulée « Prenez soin de vous » qui est diffusée le week-end. Dans cet épisode, on va parler un peu de ton parcours professionnel, de ton engagement envers la sensibilisation au sujet de santé et aussi sur l'impact de ton travail sur la compréhension du grand public des enjeux de santé actuels. Margot, bienvenue dans le cheminement.
Merci Margot.
Alors, j'aimerais commencer par le commencement et te demander, en fait, qu'est-ce qui t'a attiré pour le journalisme? Enfin, qu'est-ce qui t'a attiré vers le journalisme? Et aussi, aujourd'hui, en particulier, qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait de travailler sur des sujets de santé? Parce que c'est quand même, on travaille pas des sujets de santé comme on travaille les autres.
Pour le journalisme, en fait, j'ai toujours aimé raconter, j'ai toujours adoré questionner, enquêter, et je crois que ça remonte à l'enfance. J'ai eu la chance de voyager avec mes parents parce que je suis la petite dernière, et je tenais des carnets de bord où j'avais besoin de raconter mes rencontres du jour, les événements marquants, et tout ça, c'était vraiment...
C'est génial.
J'avais 10 ou 11 ans, je me rappelle d'un voyage en Afrique où je tenais ça. J'aurais bien aimé le retrouver d'ailleurs, mes parents n'ont pas gardé grand-chose malheureusement. Et donc ça, c'est ce goût du récit, ça je l'ai depuis longtemps. Le journalisme, je l'ai rejoint après 5 années de droit, parce que les bonnes écoles de journalisme, la plupart, ne sont pas accessibles directement après le bac. Donc au début, en deuxième année, je voulais rejoindre l'Institut français de presse à l'Université Paris 2. Mais sauf que j'étais la dernière année du DUG, donc je me suis dit, fais une licence, et puis en licence, je me suis dit, bon, fais une maîtrise, et puis c'est en fait que en M2, en Master 2, de droit d'auteur, droit des marques et droit des brevets, que j'ai présenté en parallèle les concours d'école de journalisme. J'avais envie de fermer la page droit avant d'ouvrir un nouveau chapitre.
Okay.
Et je pense que même si les connaissances, en tant que telles, de juridiques, ne me servent pas au quotidien, parce qu'en plus, toutes les lois changent et c'est périmé. En revanche, j'ai gardé la rigueur, l'organisation des idées. Et ça, je te promets que ça me sert tous les jours encore dans mon quotidien de journaliste.
Bah, j'imagine.
Et pour la santé, ensuite, c'est venu assez naturellement. J'ai eu plusieurs vies en une. Là, c'est ma 14e année dans la rédaction de BFM TV. J'ai commencé au desk, donc je montais des sujets qui n'étaient pas des images que j'avais tournées moi-même, où je posais ma voix sur les images pour faire un commentaire sur image. Ensuite, j'ai fait du reportage. Et ensuite, j'ai présenté le journal le soir. Et puis, l'été, après cette année-là, mon amie et collègue Cécile Denré, qui avait le poste de spécialiste santé, est partie à postuler pour avoir le poste justice. Et elle m'a dit, mais vas-y, c'est pour toi, vas-y, fonce. Parce que je l'avais aidée à caler plusieurs sujets. Elle savait que j'avais une appétence. Je sais pas pourquoi, la plupart des amis de mes parents sont ou étaient des médecins, donc j'ai un peu baigné dans cet univers.
Ah, c'est marrant.
Et j'ai toujours adoré caler ou faire des reportages dans ce domaine. Et donc, J'étais à l'époque en voyage de noces, c'était il y a 10 ans, et elle m'a dit vas-y postule, et je lui ai dit c'est justement ce que je comptais faire, donc merci pour ton appel, ça me conforte. Et puis j'ai eu le poste, et depuis ça va faire 10 ans, je suis toujours pas lassée. En fait, je trouve que c'est une matière très concernante, et si on est honnête, peut-être qu'il y a une petite part aussi d'hypocondrie que j'ai complètement traitée avec ma spécialisation, mais le fait de c'est rassurant, en fait, les professionnels de santé sont des personnes rassurantes. Humble. Moi, j'ai jamais honte d'appeler pour dire est-ce que je peux dire ça comme ça, est-ce que tu peux m'expliquer cette étude, est-ce que voilà. Et c'est vrai que j'ai pu nouer des relations hyper précieuses avec des professionnels de santé qui me servent dans mon quotidien.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire par le côté rassurant. Moi, pareil. À l'origine, j'ai pas du tout de formation en santé, mais j'ai appris tellement et je trouve que ça m'aide aussi à prendre mieux soin de moi, en fait.
Et puis, il n'y a pas beaucoup de matières qui te servent autant dans ton quotidien. Moi, j'ai 3 enfants, donc ça m'a permis de faire des consultes aussi, tu sais, après les reportages, en mode « Oui, c'est normal s'il fait ça, c'est normal. » Et puis, les bons réflexes aussi, les discussions avec la pédiatre, ça me donne parfois aussi des idées de sujets. On a beaucoup parlé des traitements pour le nirsevimab pour la bronchiolite cet hiver, avec l'efficacité chez les nouveau-nés.
Qui est un nouveau vaccin, d'ailleurs. Ah. Je ne le sais, alors que je n'ai pas d'enfant.
Ouais. Alors, c'est les médecins, ils disent qu'il ne faut pas parler de vaccin, il faut parler de... C'est une immunisation, en fait. C'est comme un anticorps qu'on donne au bébé à la maternité. Mais ça, ma pédiatre, par exemple, elle m'avait dit « Ah bah, j'ai chauffé tous les parents avant l'été qui étaient super partants. » Et en fait, comme les doses ont été limitées, ils ont réservé ça aux bébés qui sont nés à l'hôpital. Elles étaient plus dispo en ville. Mais en fait, c'est important de garder ce pied dans la vie quotidienne pour avoir des idées de sujets concernants.
Et alors justement, je voulais te demander comment vous choisissez tous les deux les sujets des différents épisodes.
On en discute avec Alain, qui est mon binôme et mon ami depuis maintenant près de 10 ans. Soit des choses qui nous ont marqué dans l'actualité. Nous, c'est vrai qu'en tant que chaîne d'info, on continue, on baigne dedans, donc on se dit tiens, ça peut être intéressant de faire un rebond ou au contraire un petit pas de côté sur ça, où on a vu un super témoignages en reportage qu'on pourrait réutiliser et faire rebondir un spécialiste en longueur. Et puis, c'est quand même une chance inouïe de pouvoir, en toute liberté, inviter des personnes qui vous passionnent ou voilà, que vous avez envie d'entendre sur un sujet qui vous intéresse à l'origine.
Alors, je rebondis sur le fait que tu disais en toute liberté, parce que tu me disais en off, et ça, c'est pas la première fois que je l'entends, même des podcasteurs que je rencontre qui travaillent pour des grands médias, comme BFM, comme 20 minutes. C'est qu'en fait, vous avez une vraie liberté éditoriale, comme moi je l'ai avec Cheminement ou avec tous les autres podcasteurs. Sur le choix des sujets, peut-être aussi même parfois sur le format, si vous proposez que ce soit un petit peu plus long cette fois-ci, comment ça se fait?
Alors, pour les reportages télé, on a une conférence de prévision tous les mercredis où on dit chaque service donne ses prévisions avec ce qui va se passer dans l'agenda et comment on propose de traiter une thématique, avec quel angle, etc. Et pour les podcasts, on a une boucle tout simplement WhatsApp avec Julien Milcaret, qui est directeur de l'information digitale, avec Thénaïs Keller, qui s'occupe de tous les podcasts, et aussi Alexandre Foucault, mon chef d'édition, pour proposer les sujets. Et puis, il nous dit « Ah, c'est super idée !» Par exemple, là, on vient de valider 3 futurs épisodes, parce que il y avait les vacances scolaires, donc il n'y a pas eu d'enregistrement pendant cette période. Et là, demain, on va faire un podcast... l'endométriose, ça c'est lundi. Vendredi, sur la sexualité masculine et les problèmes d'érection notamment. Et demain, on va faire, je l'ai calé tout à l'heure, un podcast sur le burn-out.
Ok, ouais, donc c'est des sujets d'actualité, oui, c'est sûr.
Alors, pour l'endométriose, ce sera bien parce qu'il y a la semaine de l'endométriose.
Le mois de sensibilisation à l'endométriose en mars, ouais.
Exactement. Le mois de sensibilisation à l'endométriose. Et après, sinon, pour le burn-out, il n'y a pas vraiment d'accroche d'actualité, mais on trouve que c'est un sujet concernant.
Je trouve que c'est d'actualité dans le sens où on parle de plus en plus de santé mentale au travail. Oui. Donc finalement, même si ce n'est pas de l'actualité chaude, c'est clairement, ça reflète les interrogations qu'on peut avoir aujourd'hui.
Ouais. Et donc là, c'est super. Quand on choisit un thème, après, on se demande quel va être le meilleur invité ou voilà, pour le plus pertinent ou le plus légitime en fonction de l'angle qu'on a choisi pour traiter le sujet. Donc, soit on pense spontanément à l'un ou moi à quelqu'un, que l'on va contacter en direct. Par exemple, sur l'endométriose, j'avais déjà interrogé et fait des reportages à plusieurs reprises, mais j'ai contacté la PHP, l'Assistance publique hôpitaux de Paris, pour savoir quelle personne ils me conseilleraient, pour voir s'il n'y avait pas de nouvelles idées, pour pas non plus tourner en rond et avoir l'impression de faire toujours les mêmes personnes. Et ils m'ont recommandé une épidémiologiste brillante de Gustave Roussy et de l'INSERM.
Trop bien. Et alors justement, effectivement, j'allais te demander comment tu sélectionnes tes invités, mais en gros, l'idée, c'est de d'essayer de vous renouveler, de pas forcément faire appel aux personnes que vous connaissez.
Non,
comme,
exactement.
Comme tout le monde.
Pour la sexualité masculine, un exemple, j'ai appelé un urologue que j'avais dans mes contacts, qui m'a expliqué plein de choses sur les troubles érectiles. Et puis après, il m'a dit, vous devriez appeler docteur Antoine Fex, il est super, il est à Montpellier, je vous donne son numéro. Donc je l'ai appelé et puis j'ai cherché des choses aussi, des informations sur lui. J'ai vu qu'il avait publié beaucoup sur le sujet et puis ça tombait bien, il vient à Paris un vendredi sur deux, donc on s'est adapté et on va pouvoir l'enregistrer ce vendredi. Mais donc ça se fait comme ça, assez naturellement. Il faut aussi que les invités soient disponibles. Souvent, notre créneau d'enregistrement, c'est le jeudi après-midi. Et pour les gens qui bossent, c'est pas forcément évident. Alain bouge des consultations, d'ailleurs.
Attention, puisque les auditrices vont t'appeler, Margot.
Avec joie.
Alors, justement, oui, sur les invités, il y a aussi un autre paramètre à prendre en compte. On sait que dans la santé, le domaine de la santé, les fake news peuvent tuer. Il y en a beaucoup qui circulent sur les réseaux sociaux. T'as dû le voir aussi bien que moi. Comment vous faites pour être sûr que les infos que vous donnez vont être à la fois médicalement valides, accessibles au grand public et surtout qu'elles soient bien scientifiquement valides, parce que j'imagine que vous avez plein de choses à faire, un emploi du temps hyper chargé. Et bon, après, tu as entendu un médecin, donc j'imagine qu'il est capable de filtrer des choses, mais est-ce que vous avez...
Rechercher des sources et des études fiables. Je te donne un exemple concret. Je voyais un chiffre qui se baladait sur un communiqué disant que 61% des hommes avaient déjà été concernés par un trouble de l'érection. Et là, typiquement, j'ai appelé la société qui était à l'origine du communiqué pour demander d'où ça venait. Ça venait en fait d'un sondage de l'IFOP de 2019. Et puis après, j'ai appelé des urologues qui m'ont dit « Ah non, mais ça me paraît pas du tout surestimé. » Parce que là, on parle des hommes qui ont déjà eu une fois au moins un problème. Et donc, enfin, retracer la source et puis interroger des spécialistes de leur domaine pour savoir si c'est toujours ces chiffres qui sont bons. Est-ce qu'on a des données plus récentes? Et même, quitte à sourcer, en fait. L'important, c'est vraiment de vérifier l'information, sa provenance et voir si c'est la plus actualisée.
Selon toi, comment ta collaboration, donc avec Alain Ducardonnet, qui est cardiologue, comment votre duo fait que le podcast est mieux? C'est vrai que c'est un format assez spécial dans les podcasts, souvent, dans les podcasts santé en tout cas, c'est souvent des interviews. Donc il y a un animateur, là vous êtes un duo, moi j'adore ce format parce que ça change.
Je trouve ça très complémentaire, nos profils sont extrêmement complémentaires. Alain est médecin, il est cardiologue et puis il est consultant santé pour nous depuis plus de 10 ans et avant pour d'autres médias. Donc, il a cette capacité à vulgariser qui est vraiment très appréciable. Moi, je suis journaliste, donc clairement, quand on doit vérifier une info ou appeler, que dis-je, l'ANSES, Santé publique France ou un autre organisme de santé publique pour avoir des données, ça, c'est plutôt mon boulot. Ou caler des témoignages en reportage, c'est plutôt mon boulot. En revanche, Alain, quand je prépare, j'écris une chronique, on la relie ensemble, je dis ça va, ça te paraît bien, on peut discuter d'un mot, d'un terme ensemble. Je peux lui demander justement comment vulgariser un autre terme ou une intervention. Voilà. Et ça, c'est vraiment magique de faire ça avec lui, parce qu'il est extrêmement simple et extrêmement humble.
Et on sait que c'est rare, hein, parce que quand on vulgarise, alors j'aime pas trop ce mot parce que c'est...
T'aimes pas le mot vulgaire?
Ouais, enfin parce que je trouve que c'est pas adapté, mais enfin
pédagogique l'information.
Ouais, quand tu rends accessible l'information, c'est hyper dur et on le sait quand on travaille dans le secteur de la santé, c'est hyper dur d'avoir quelque chose qui soit vrai et qui soit compréhensible de tous. Et donc c'est un art hyper subtil et effectivement je confirme ce que tu dis, que votre duo marche très bien pour ça. T'as mentionné que vous étiez amis, c'est depuis bien plus longtemps que ça que vous êtes amis, c'est avec le...
Je suis arrivée à la santé, Alain était déjà consultant pour BFM TV, et on a noué une relation d'amitié qui est géniale, en fait, on a déjà dîné en dehors avec nos maris et femmes respectifs, il m'a déjà invité en vacances, et puis surtout, on a une chronique où notre direction aime beaucoup le ton, etc. Parce que cette complémentarité, je pense, se ressent.
Cette complicité, ça s'entend, oui.
Voilà, et ça, c'est vraiment magique. Franchement, c'est génial de travailler avec quelqu'un de constant en humeur, de gentil, de drôle. Il est super drôle. Puis qui ressemble à Harrison Ford, en plus.
Oui, c'est vrai.
C'est marquant.
Mais oui, effectivement, tout s'entend à l'audio. Et c'est vrai que moi, une des premières choses que j'ai fait quand j'ai rencontré mon associé avec qui on a créé Medcheck, c'est de lui dire, il faut qu'on... Parce qu'on n'était pas amis du tout à l'origine. Je lui dis, je veux qu'on travaille cette complicité parce que ça va s'entendre, le fait quand on prendra le micro toutes les deux. Et effectivement... C'était aussi, je trouve que c'est aussi un beau contexte pour faire ça, pour créer cette complicité.
Et t'en as besoin, parce que quand t'interviews quelqu'un pendant un podcast, et justement que t'es deux, eh ben, parfois j'écris une trame, mais il va rebondir sur ce que dit, et on se connaît tellement bien qu'on sait.
Ah oui, t'arrives à savoir ce qu'il va dire.
Sur quoi l'autre va rebondir, et donc en fait, on se décale spontanément, la question qui était prévue pour lui devient pour moi, et puis on bouge spontanément le passage d'après, parce qu'on s'est dit, mais c'est plus logique, et donc c'est très fluide.
C'est quoi l'histoire? Alors donc, on va dire, depuis le début de ta carrière, mais sur la santé, quelle est l'histoire ou le sujet qui t'a le plus marqué personnellement?
Tellement difficile, parce que depuis près de 10 ans, j'ai fait des rencontres. En fait, je pense qu'aussi j'aime ce métier parce que j'aime les gens. Et mon mari me dit souvent, t'es trop curieuse, arrête de poser des questions, tout ça, mais c'est plus fort que moi. Et ce qui me fait marrer, c'est que mon fils aîné, qui va avoir 9 ans, est pire que moi. Il rentre de l'école, il connaît la vie de tout le monde. Il peut passer genre 10 minutes à me raconter ce qui s'est passé dans la cour de récré pour un de ses amis, pour la maîtresse et tout. J'adore parce que j'ai l'impression de me reconnaître.
C'est un futur podcasteur, en fait.
Je sais pas, il est assez geek, donc peut-être soit dans la technique. Mais... Non, les sujets, je me souviens de plusieurs reportages qui m'ont marqué. L'un d'entre eux sur le syndrome d'alcoolisation fœtale avec une maman qui avait adopté un enfant dont la mère biologique avait consommé de l'alcool pendant sa grossesse et qui avait été en errance diagnostique pendant des années avant de comprendre que c'était l'alcool qui avait endommagé le cerveau de son enfant adoptif et qui menait depuis un combat pour faire de la prévention. J'ai tellement dit un reportage un peu long format sur le malaise des infirmiers qui m'avait conduit à Poitiers rencontrer deux sœurs des jumelles dont une avait tenté de se suicider en raison de son mal-être au travail. Elle était infirmière psychiatrique. J'ai gardé contact avec toutes ces personnes-là. Il y a tellement de sujets qui m'ont marqué humainement et des familles. Le suivi aussi d'une famille de grands prémas. J'étais enceinte de mon premier fils. J'avais tourné un long format sur les grands prématurés à Port-Royal et j'avais rencontré une maman qui était quasiment au même terme que moi, sauf qu'elle venait d'accoucher de jumeaux à 6 mois et encore aujourd'hui, je lui demande des nouvelles et ses jumeaux vont bien, ils ont 9 ans. Donc, non, beaucoup de... En fait, ce que je trouve génial, c'est de pouvoir garder contact. Et notamment, je pense aussi à Annika, la fille d'une résidente d'EHPAD atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui a perdu sa maman il y a pas longtemps et qui a perdu son frère que je connaissais et avec qui je m'étais liée d'amitié aussi après le reportage. Et ça fait partie aussi de mon cercle presque professionnel mais aussi amical.
Bah oui, justement, ça s'entend que ces histoires te touchent et du coup ça me mène à ma question d'après. Comment tu gères en fait les différents défis émotionnel que ton travail te donne dans le sens où bah encore une fois la santé c'est pas un sujet anodin. Il y a souvent des histoires qui sont assez dures. Est-ce que t'as déjà pleuré par exemple ou est-ce que comment tu gères?
Moi j'ai déjà pensé beaucoup la nuit. J'ai déjà dû aussi en parler le soir à mon mari et lui parfois je vais être honnête il trouve que c'est très plombant parce que moi, ça me fait relativiser. Je dis, je trouve que tout le monde sait que la santé est le bien le plus précieux qu'on peut avoir. C'est vraiment cliché de dire ça, mais c'est tellement vrai quand on fait ce métier.
On s'en rend compte encore plus.
Quand on va voir des enfants malades et que les siens sont en bonne santé jusqu'à présent, on mesure sa chance. Et c'est vrai que voilà, ça fait réfléchir, ça fait relativiser. J'ai tendance à dire que il y a peu de choses qui sont graves. Ma mère rit toujours en disant, comme tu dirais, il y a des choses plus graves. Mon frère aîné vient de se briser les deux jambes dans un accident de ski la semaine dernière. Il a été opéré en urgence, élitreuillé, etc. Mmh. Ça va être très long, il va pas pouvoir poser le pied par terre pendant 2 mois. Et mes parents s'en occupent maintenant dans le sud chez eux, parce que c'était plus facile que dans un appartement avec 2 enfants en bas âge. Mais ma mère était effondrée, je lui ai dit « Maman, c'est provisoire, c'est certes très dur, il va être handicapé pendant quelques mois, voire... voilà, ça va être temporaire, provisoire, mais ça aurait pu être plus grave. Enfin, c'est la première chose que les secouristes ont dit à ma belle-sœur, il est vivant. Donc, c'est aussi toujours cette mesure... voilà, ça fait relativiser dans la vie. J'ai la chance aussi d'avoir des enfants, et je trouve que les enfants, ça change les idées.
3 en plus, ouais. Ça me paraît tellement de travail.
Ouais, c'est du boulot, mais résultat, en fait, on n'a pas le temps de penser aussi. Ça permet une déconnexion assez totale. Enfin, hier soir, j'ai reçu un appel de boulot à 19h47. J'étais dans le lit superposé des garçons avec ma petite dernière dans les bras. Je pense que la personne a dû se rendre compte de l'ambiance. Voilà, j'étais seule chez moi avec les 3 et dans ces moments-là, on n'a pas trop le temps de penser à autre chose.
J'imagine. Parlons un petit peu du futur. Comment tu penses que le monde du podcast santé va évoluer ? On en a de plus en plus.
Oui.
L'année dernière, il y a une véritable explosion. Moi, je suis trop contente parce que ça veut dire que c'est aussi en plus d'être une proposition, il y a aussi de plus en plus de personnes qui en demandent des podcasts qui parlent de santé. T'en penses quoi ?
Bah, je trouve ça très chouette aussi. J'ai été étonnée du succès de notre podcast. Enfin, quand moi, j'y connais rien en audience, en téléchargement, et que les responsables du digital sont revenus vers nous sur la fameuse boucle WhatsApp en nous disant « Incroyable !» Je sais plus, il y avait 68 000 écoutes en 2 mois où c'était vraiment... ils étaient très contents. Sans pub, tu vois. Et puis, c'est quelque chose que l'on fait dans une cabine ou dans un studio radio qui est déjà chez nous, donc il n'y a pas de moyens supplémentaires mobilisés, même si ça mobilise de l'humain, évidemment. Mm-hmm. Et je pense que j'ai découvert aussi l'offre des podcasts santé avec le prix du podcast santé. C'est assez étourdissant, quoi, de voir tout ce qui existe, mais je pense qu'en fait, ça répond en effet à une demande et qu'il y en a pour tout le monde. On n'est pas tous intéressés par les mêmes sous-sujets dans la santé.
Carrément.
Donc, c'est vraiment très chouette.
Bah, effectivement, ouais, sur la plateforme podcast-santé.com qu'on a créée, on l'a créée pendant le Covid. Et en fait, donc c'était, tu vois, au lendemain du confinement, quoi. Il y avait une 20aine de podcasts qui parlaient de santé. Et encore, c'était pas des podcasts qui parlaient de santé, c'était des podcasts fitness, tu vois. Donc,
d'accord.
Pas vraiment, voilà. Et aujourd'hui, là, sur la plateforme, il y en a plus de 500.
C'est énorme.
Et donc, il y a de plus en plus, de sujets différents qui sont traités. Il y a des podcasts par des patients, par des soignants, par des entreprises aussi de la santé. Du coup, chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice et sa vision. Et voilà.
Et moi, des formats, en plus, je trouve ça assez magique pour nous, parce que nous, les reportages télé, en général, c'est, bon, dans les formats de nos journaux, c'est 1 minute 20, 1 minute 30, dans le meilleur des cas. Mais là, quand je dis à nos invités, on va passer 15 ou 20 minutes... au début, on s'était dit 10. Moi, quand on m'a proposé de faire ce podcast en me disant on n'a qu'à faire un pilote de 10 minutes, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter pendant 10 minutes bon, et je dis, il y aura un invité, bien sûr, mais ça me paraissait très long. Et puis maintenant, en fait, on est obligé de nous couper.
Ah ouais. Ah bah ça. Et puis, en plus, quand les invités sont sympas, on n'a pas envie d'arrêter d'enregistrer. Toujours dans la même rubrique, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour quelqu'un qui veut se lancer dans le podcast santé ?
De répondre à une envie, à une attente ou à un besoin. En fait, je pense qu'il faut que ce soit sincère et que ça apporte quelque chose. Comme toutes les bonnes idées de boîte, de société, de création d'une société, je pense que si on se dit, tiens, j'ai pas vu... de podcast parler de ce sujet, ce serait bien. Même s'il y a 100 personnes qui l'écoutent au final, c'est top. Moi, je dis toujours, quand on fait des reportages un peu de prévention, même pour inciter au dépistage, des cancers ou autres, même s'il y a 5 personnes qui le font au final, c'est déjà ça de gagner.
Ah ouais.
C'est un peu la même chose pour les audiences de podcast, je pense. Et puis en plus, je pense que ça fait plaisir aussi à la personne qui le fait.
Et puis comme tu dis, 100 personnes, en fait, je trouve qu'on a un peu passé d'un cadre où... j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, tu sais, on n'a plus trop la notion de ce que c'est
l'audience.
Que 100 personnes qui écoutent quelque chose pendant 10 minutes, c'est énorme par rapport au, à toutes les vidéos sur les différents réseaux sociaux où tu restes quelques secondes. Tu vois, moi, je trouve ça, je trouve que c'est génial, quoi.
Je suis complètement d'accord. Ouais. Et de capter l'attention, parce que on le remarque tous. Moi, parfois, j'ai l'impression d'avoir le cerveau qui s'est ramolli par rapport à mes études, la capacité d'attention quand on lit un bouquin, quand on lit un document. Qu'est-ce qu'on est tenté de prendre le téléphone pour regarder parce qu'il y a un truc qui surgit dans notre cerveau, on se dit tiens, j'ai pas répondu, j'ai pas fait ça, j'ai... et c'est terrible de s'interrompre. Et là, je trouvais des personnes qui arrivent à rester attentif 10 minutes ou 15 minutes sur un thème, je trouve ça génial.
C'est quoi la dernière fois que tu as essayé d'apprendre quelque chose par cœur?
Pour nos chroniques hebdo, c'est court. Tu vois, c'est 1 minute 32 minutes. Mais on essaie de les, je les écris souvent et on se fait un ping-pong un peu avec Alain. Et dans ce cas-là, on se le lit le temps que les caméras se mettent en place, qu'on règle le son, etc., qu'on fasse bien la configuration pour le tournage. En général, on se le met un peu en bouche et en tête et on finit par le connaître. Mais c'est pas du par cœur. La dernière fois que j'ai pris un truc par cœur, c'était La cigale et la fourmi hier soir avec mon deuxième fils pour lui faire réciter sa poésie.
Non, mais parce que c'est ça aussi, on n'est plus habitué à faire ce genre d'exercice et voilà. C'est fou ce que
je pense que c'est important que les enfants gardent. C'est parfois il y a des poésies vraiment imbitables, mais je pense que c'est important de garder cet effort de mémorisation, d'entraîner sa mémoire.
Ouais. Je souris parce que j'ai trouvé que j'avais des très bonnes questions. si tu avais la possibilité d'échanger de place avec un de tes invités experts que t'as rencontré, ce serait lequel?
Je pense spontanément à Elsa Carmorvan, qui est au service néonatologie de Necker. C'est vrai que ce monde de la maternité et plus largement de la parentalité me passionne. Après, si je regarde la liste, on a reçu aussi une anesthésiste qui était géniale. Mais anesthésiste, ça me brancherait peut-être moins que m'occuper de bébé. Quand tu me demandais aussi les témoignages qui m'ont marqué, tous les témoignages autour des dons d'organes. Ouais. Quand tu humanises ce que le don d'organes représente, que tu interviews une nana qui a été sauvée, qui a notre âge et qui a été sauvée par la générosité de quelqu'un qui a permis de sauver d'autres vies par ailleurs, je trouve que ça rend beaucoup plus concret cette question où, qui est un peu aride, quoi. Quand tu parles don d'organes à un dîner, tu vas plomber l'ambiance. Et il y a plusieurs témoignages comme ça qui m'ont marqué d'histoires de vie, même d'amis d'école qui se sont retrouvés des années plus tard parce que la femme avait lancé un appel pour un rein et que finalement c'est son ami de collège qui lui a donné. Enfin, des destins croisés comme ça, ça fait réfléchir.
C'est incroyable. Il y a un très beau documentaire qui est sorti ce mois-ci qui s'appelle Revivre.
Ouais, j'ai reçu un communiqué dessus. J'aurais bien aimé.
Et bah, ouais. J'ai été invitée à le voir en avant-première et c'est sur le don d'organes et tu suis le parcours de deux bébés, quoi. Donc vraiment tout petit qui t'as une greffe de foie et une greffe de cœur. Et c'est absolument incroyable. Alors, c'est très dur, mais effectivement, ça permet de réaliser aussi à quel point... parce que là, t'as non seulement la vie de la personne, mais t'as la vie des parents aussi, ouais, qui est en jeu.
Et ça met aussi en lumière le don d'organes pédiatriques, enfin, de l'autre côté de la chaîne. Deux sujets qui m'avaient marqué là-dessus, sur des parents qui attendaient et qui appelaient au don, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est encore plus... tabou, j'aime pas trop ce mot, mais pour les enfants, quand on perd un enfant, c'est tellement pas dans la logique des choses que on peut pas forcément entendre qu'une équipe médicale vous propose de donner les organes alors que vous êtes dans la détresse et le chagrin le plus absolu. Et j'avais rencontré une maman qui avait écrit un livre sur le don d'Alice, c'était le nom de sa fille, qui est décédée après un accident d'équitation et elle a fait le choix de donner ses organes. Et elle expliquait comment ça avait donné un sens à cette disparition qui était totalement absurde.
Permet effectivement de redonner du sens. Si tu pouvais remonter dans le temps et te donner un conseil à toi, mais plus jeune, ce serait quoi?
Continue le théâtre.
Ah oui?
J'en ai fait en tant qu'amateur. Au lycée, j'en aurais bien fait mon métier, je rêvais d'intégrer le conservatoire. Et après, j'en ai fait en tant qu'amateur, mais je trouve ça tellement formateur. Pour le podcast, c'est bien, pour l'élocution et l'articulation. Un chasseur sachant chasser sans son chien de chasse. Et non, je trouve que humainement, c'est magique. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais il est pas trop tard, peut-être.
Ah oui, ça c'est sûr. C'est quoi la chose la plus surprenante que tu as apprise sur la santé en travaillant dans le podcast ?
Que c'est accessible. Si tu t'en donnes les moyens et si tu oses demander à des spécialistes de simplifier. Et...
Dans le sens où tu n'as pas besoin d'avoir fait des études dans le domaine de la santé ou dans la science ?
Exactement. Tu n'as pas besoin de faire 12 ans de médecine pour en parler. Moi, le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'était pendant le Covid, un médecin que je connais depuis des années qui m'a dit « Ah, mais je pensais que tu avais fait médecine. » Je lui ai dit « Bah, sincèrement, franchement, si j'avais fait 12 ans d'études, je serais peut-être mieux à m'occuper de patients que sur un plateau de télé, mais ça me fait très plaisir. »
Ça veut dire que tu connais très bien ton sujet.
J'essaye, mais en tout cas, je ne sais pas si c'était un compliment gratuit ou... Il avait l'air sincère, donc ça m'a fait plaisir.
Alors, on arrive au moment très très difficile. Je vais te demander de choisir un épisode de podcast à recommander aux auditrices d'écouter. De votre podcast, bien sûr.
Bien sûr. J'allais dire les punaises de lit, parce que c'est celui qui a le mieux marché. Mais,
tu m'étonnes.
Peut-être le témoignage de Laurence qui nous a raconté son combat pour sortir de l'alcoolisme. Un témoignage qu'on a sorti début janvier à l'occasion du défi de janvier, du mois sans alcool. Laurence Côté. Et qui s'est engagée maintenant, qui est patiente experte.
Qui a lancé d'ailleurs le janvier sobre en France.
Exactement.
Ok, je vois très bien. Ouais.
Et quand elle raconte son histoire personnelle, j'avais l'impression de l'avoir déjà entendue puisque je la connais depuis quelques années. Et en fait, sur le format d'un podcast, on peut vraiment rentrer dans les détails et elle se livre sans aucune pudeur. Et c'est vraiment touchant.
Effectivement, j'étais tombée sur ce témoignage aussi. Et puis, je trouve qu'elle explique très bien. Est-ce qu'il y a un sujet de santé que... je sais ce que tu vas répondre, je pense. Est-ce qu'il y a un sujet de santé que vous n'avez pas encore abordé, mais que vous voulez aborder ?
Il y en a tellement. Il y a tellement de sujets. Ouais, peut-être la fin de vie. C'est pas du tout un sujet qui fait rêver, mais c'est un sujet passionnant. Et quand on s'y penche de près, il y a des enjeux malheureusement très universels, très, très concernants. J'ai pu tourner récemment un reportage dans une maison spécialisée en soins palliatifs. Et en fait, ça m'a détricoté beaucoup d'images, de clichés que j'avais sur ces lieux. En fait, c'est pas forcément que des personnes mourantes. Pour la plupart, oui, mais il y a des personnes aussi qui sont en transition, qui ont besoin de repos pour reprendre des forces, soit dans la maladie, la plupart du temps dans la maladie. Et qu'en fait, les personnes qui y travaillent, certes, elles ont besoin de beaucoup de courage parce qu'elles voient partir des gens, mais elles ont... pour le coup, elles n'ont pas de problème de perte de sens au niveau professionnel. Quoi. C'est vraiment tellement précieux, tellement utile. Et c'est, je pense, que là où l'humain est le plus important pour les malades et en fin de vie, mais aussi pour leurs proches. Donc ça, c'était... Je pense que la fin de vie, c'est... Le projet de loi est repoussé sans cesse. Et je pense que c'est un des sujets qu'on va devoir aborder dans... prochainement. Et il faut voir l'angle aussi, c'est ça qui est très intéressant.
Parce dans quel sens ?
Est-ce que tu fais quelqu'un un témoignage d'un malade qui sait qu'il est condamné et qui demande aux autorités de changer la loi ? Est-ce que tu fais un médecin spécialisé en soins palliatifs qui t'explique en quoi consiste le cadre légal aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement avec des patients, est-ce qu'il pense que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut aller plus loin ? Est-ce que tu fais un aide-soignant ou une infirmière qui est aux côtés de patients en fin de vie au quotidien et qui t'explique les difficultés et aussi la beauté de ce métier ? Il y a tellement de façons d'aborder les choses. Ou les proches de quelqu'un qui a choisi de partir à l'étranger parce que le cadre français ne convenait pas. Voilà, il y a tellement de façons de traiter le sujet que même si tu peux faire 4 podcasts
à fond
avec un sujet.
Écoute Margot, c'était tout pour moi.
Merci
beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
C'était un plaisir.
Et je ne peux qu'inviter les auditrices et les quelques auditeurs à aller écouter le podcast santé de BFM.
C'est voilà. Gentil. Merci beaucoup. Ça fait bizarre de se retrouver de l'autre côté du micro.
Et oui, ça m'étonne pas.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que MedCheck Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur medcheck-studio.com.